Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h45, c'est la suite de votre débat des grandes voix du vendredi sur Europe 1, toujours avec Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France, et Louis Osalter, journaliste politique à Marianne. Et si on parlait de la gauche, tiens, qui rêve de rassemblement, mais qui n'y arrive pas, hein. Les ténors de la gauche qui ont rendez-vous ensemble demain à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, réunion pour entamer des discussions sur une possible union en vue de la présidentielle, alors que les sondages annoncent une déroute historique. Sauf que chacun vient avec son idée, les insoumis ont leur candidat, il est en Amérique du Sud d'ailleurs, les écolos ont leur primaire. Yannick Jadot, qui pourtant y croit encore, ou en tout cas qui fait comme s'il y croyait.
Il y a une aspiration dans ce pays à un grand rassemblement autour de la justice sociale, de la démocratie, de l'Europe, évidemment de l'écologie. Si nous ne satisfaisons pas cette espérance, cette aspiration, à ce moment-là, on sera balayé. Et donc, si nous sommes capables de nous mettre autour de la table, travaillons sur le fond. Petit à petit, vous verrez qu'on avancera vers une candidature commune. C'est ma conviction.
Stéphane Vernet, il y a vraiment une aspiration, comme le dit Yannick Jadot, à un grand rassemblement de la gauche.
Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont tous en train de se dire que de toute façon, s'ils y vont pas rassembler, c'est perdu d'avance. Donc la logique fait que effectivement, ils ont tous le même discours. Il faut qu'on ait un candidat unique avant le premier tour pour la présidentielle de 2022. Le problème, c'est que vous l'avez très bien dit, Isabelle, tout à l'heure, c'est que chacun y va avec sa propre logique à ce rendez-vous de demain, en fait. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui, lui, a décidé que c'est le grand œuvre de sa vie. Il sera candidat. Il le fait pour rentrer dans l'histoire. Je ne vois pas retirer sa candidature. Vous avez les Verts qui ont décidé qu'ils allaient choisir quelqu'un parce que la dernière fois, ils se sont effacés au profit des socialistes. C'est leur tour. Ils pensent que c'est le moment et qu'il faut que ce soit un candidat issu de leur rang qui y aille. Vous avez les communistes, en fait, qui ont décidé de faire acte de candidature pour sauver les meubles, parce que eux, ce qu'ils visent, c'est des résultats dans la foulée aux législatives. Et puis, vous avez le Parti socialiste qui est tétanisé à l'idée d'avoir une deuxième fois de suite pas de candidat au deuxième tour de la présidentielle et qui se dit que s'ils n'arrivent pas à placer quelqu'un, ils n'y survivront pas. Et donc, tout ce petit monde va se réunir en disant « il faut qu'on arrive à se rassembler ». Comment ? Ça, c'est la grande question. Vous avez Olivier Faure qui y va dans l'idée de dire, et à mon avis, c'est la plus raisonnable, la plus intelligente, de dire il faut qu'on arrive à passer un accord de gouvernement. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord sur un projet. Et quand on sera d'accord sur un projet, et seulement quand on sera d'accord sur un projet commun, alors se posera la question de savoir qui pour incarner le projet. Le problème, c'est que je vois bien qu'ils vont... il me paraît évident qui sont partis pour tout faire à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord s'écharper autour du qui avant de penser au quoi.
Au quoi, ouais.
Alors que, effectivement, la seule échappatoire, ou le seul moyen de se mettre d'accord sur une problématique aussi épineuse, c'est de commencer par le projet.
Vous êtes d'accord avec ça, Éric Scholl, le qui passe avant le quoi?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, regardez l'histoire. En 1972, quand il y a l'union de la gauche, on part d'abord commence par le programme de gouvernement. Et donc, ce programme, il rassemblait à l'époque le Parti socialiste de François Mitterrand. Il rassemblait le Parti communiste et puis il y avait le MRG. Il a quand même fallu se mettre d'accord en 1972 et ils arrivent à un candidat unique pour 1974, c'est François Mitterrand. Mais avant d'arriver au pouvoir, il va quand même falloir attendre jusqu'en 1981. Et là, il y avait pourtant déjà, ils étaient à peu près réussi à faire une base, un programme commun. Aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que le quoi, c'est-à-dire le programme,
le fond,
de
le
la
programme,
gauche,
oui.
En réalité, ils sont trop divisés sur ce programme. Il y a trop de choses qui les séparent. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire entre une partie du socialisme, entre la partie républicaine qui défend les valeurs de laïcité et d'autres qui sont exactement à l'opposé de ces valeurs-là ? Je pense que les écarts sont beaucoup trop grands pour arriver à trouver un consensus. Donc, du coup, chacun joue sa petite formation, voire sa personnalité. On a vu, Anne Hidalgo a essayé de se dire, après tout, je peux peut-être être la personne qui va monter du Parti Socialiste.
C'est raté, hein, si on en croit les sondages.
Si on voit les sondages,
dépasse pas les 6%.
Peut-être qu'il y a un mois, on pouvait peut-être croire qu'il y aurait une étincelle. Cette étincelle est en train de s'éteindre. Donc, on ne voit pas non plus, dans toutes ces personnalités, quelqu'un prendre le leadership. Peut-être que Mélenchon, en 2017, pouvait y croire. Il était assez haut dans les sondages. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est déjà une histoire ancienne.
Jean-Luc Mélenchon, il est entre 9 et 11%, ça veut dire qu'il est bien loin derrière Marine Le Pen, derrière Emmanuel Macron, et même derrière Xavier Bertrand. Donc, si je vous comprends bien, cette réunion de demain, c'est un coup pour rien, Louis Osalter.
Ça va être un petit théâtre où en fait, chacun vient jouer une comédie humaine. il faut y être, parce que si on n'y est pas, si un dirigeant de gauche n'y est pas, on va l'accuser d'être le diviseur. Donc ils y vont. Mais en fait, chacun est déjà parti avec soit son candidat et ou son programme. Et c'est vrai qu'il y a des divergences. Il y a la laïcité, effectivement. Il y a aussi le rapport à l'Europe. Il y a la question du nucléaire qui est fondamentale. On n'en parle quasiment jamais sur la scène politique, mais c'est un point de divergence évident entre plusieurs familles de gauche. Et alors ça, c'est l'offre, c'est-à-dire c'est la construction de ce que différentes familles politiques de gauche ont apporté, mais il y a aussi la demande. Et en fait, le problème de la gauche, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens de gauche, en tout cas qui se sentent de gauche. J'ai retrouvé un sondage IFOP de juillet dernier, on avait demandé aux gens de se positionner selon qu'ils se sentent de gauche à droite. 39% de gens qui se positionnent à droite, 13% à gauche. Et alors après, il ne faut pas chercher très loin l'explication de ces sondages qui testent dans tous les sens toutes les configurations possibles au premier tour et au second tour, et où pas un candidat de gauche, uni, désuni, ne vient concurrencer le duel Macron-Le Pen. Et même pas un candidat de gauche n'arrive au niveau d'un troisième homme de droite qui est soit Xavier Bertrand, soit Valérie Pécresse, soit un autre. Donc c'est d'ailleurs ce que dit Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste. Oui. Il le dit dans notre numéro de Marianne de cette semaine. Il dit le problème de la gauche, ce n'est pas d'abord sa division, c'est sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse structurelle de la gauche à répondre aux préoccupations prioritaires des Français, qui font que du côté de l'offre, ils ont beau proposer des programmes, ça percole pas, il n'y a pas une adéquation avec les attentes des Français, et du côté de la demande, en fait, les gens vont plutôt avoir le réflexe de se tourner vers des
candidats. Fabien Roussel, qui va partir seul à la présidentielle.
Qui est investi par son parti pour être candidat autonome, un de plus, un prétendant de plus à gauche pour la présidentielle. Il est entre 2 et 3%.
Ouais. Ah oui, j'avais 1%, moi vous avez plus.
Ah non, on a déniché un peu plus, okay. Mais c'est pas le Pérou non plus.
Bon, allez, 2 ou 3%, on va lui donner. Le problème, c'est que la base militante, elle aimerait bien cette union, d'après une étude d'Odoxa. Il y a une grande majorité des électeurs socialistes, écolos, insoumis, qui souhaitent un candidat à la prochaine présidentielle, Stéphane Vernet. Ils ne l'auront pas.
Mais un candidat unique. Non, mais je souscris totalement à ce que vient de dire Louis, je suis complètement d'accord. Ce sondage IFOP de juillet de l'année dernière, il était très impressionnant et on voit bien qu'effectivement, il y a un problème. Mais je rebondis là-dessus parce que c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'eux-mêmes le savent, comme ils savent très bien que de toute façon, ce coup-ci, ils ont très peu de chance parce que la France ne vote plus à gauche. Voilà, on va se dire les choses. Ça fonctionne plus. Il y a un désamour. Ils le savent. Et donc, comme ils savent que d'avance c'est perdu, chacun se dit que il peut jouer sa partition aussi en solo.
En solo.
Parce que c'est de l'exposition, parce que c'est quelque chose qui permet de construire pour éventuellement pour plus tard. Mais si vous partez d'ores et déjà dans cette perspective-là, vous n'avez aucune chance. Et effectivement, on sent bien, on voit bien que l'alignement des planètes, il est très clair, en tout cas au moment où on se parle. S'il y a une alternance au duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen en 2022, il viendra de la droite.
Oui, pas de la gauche.
Clairement.
Ouais. Éric Scholl ?
Oui, en même temps, ce qu'on voit en France aujourd'hui, c'est-à-dire un effondrement de la gauche, et là je pense surtout à la partie gauche de gouvernement, c'est un phénomène qu'on a observé un peu partout ailleurs en Europe, à différents degrés, mais on voit tous les partis de social-démocratie qui ont, peut-être parce qu'ils ont été très longtemps au pouvoir, qui n'ont pas su, à un moment peut-être, se réinventer et redonner une sorte d'espérance aux classes populaires, notamment. Et aujourd'hui, ces partis qui représentaient ces espoirs ont perdu pratiquement le pouvoir, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, et en tout cas tentent peut-être de se réinventer en Italie. Ça va être intéressant de regarder ce qui se passe avec le Parti démocrate en Italie. En France, on n'en est pas là. On a l'impression que le débat sur la réinvention n'est pas encore arrivé. On en est plutôt à des batailles de personnes et des batailles et malheureusement peut-être pas suffisamment des vrais débats de fond sur les valeurs.
Oui, c'est toujours l'histoire de ce débat de fond. En même temps, on voit mal comment la gauche pourrait réussir à s'unir pour la présidentielle, alors qu'elle n'a pas réussi à s'entendre pour les régionales. On voit que cette hypothétique union de la gauche, elle est compliquée aussi pour les régionales ou les alters. Il n'y a que dans les Hauts-de-France, je crois, qu'ils partent unis, les écolos, les socialistes et les insoumis.
Oui, il y a les Hauts-de-France. Il y a quelque chose qui se monte en Pays de Loire, mais le PS n'est pas d'accord pour le rejoindre.
Dans les Pays de Loire, c'est ça ?
L'arc dans les Pays de Loire, ouais. Exactement.
Parce qu'il y a Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise.
Oui, ce qui est très intéressant, en fait, ce qui est symptomatique.
Le PS et le PCF, oui.
Oui, voilà, c'est ça. Donc à chaque fois, on retrouve des arcs concurrents. Et ce qui est symptomatique, c'est que ça se passe en plus dans des régions qui, historiquement, votent à gauche. Vous voyez, qui sont des bassins. Mais je pense aussi que ça rejoint en fait une dissension sociologique, un fossé sociologique qui s'est creusé dans ce qui, avant, faisait la victoire d'un candidat de gauche. Mitterrand, Hollande sont élus par une sorte d'alliance, pour résumer, mais vraiment très grossièrement, l'alliance des profs et des ouvriers. Quoi. Ce sont des classes populaires et une partie de ce qu'on appelle une classe bourgeoise, ou en tout cas plus intellectuelle, qui s'unissent quelque part derrière un candidat. Mais aujourd'hui, on a vu la dissension, vraiment un fossé se creuser entre des urbains qui ont des professions intellectuelles supérieures, qui vont voter écolo, et c'est le sens de la vague écologiste dans certaines villes aux dernières élections municipales, et des classes populaires, des ouvriers, des chômeurs, des gens qui sont dans une situation économique et sociale désespérée et désespérante, qui se tournent soit vers le vote Le Pen, soit vers l'abstention, parce qu'en fait, ce sont des gens qui ne votent plus. Et c'est le grand drame de la gauche, c'est que des gens qui, avant, espéraient en son programme et espéraient que des gens qui étaient d'un milieu plus élevé allaient justement s'allier et constituer un socle sociologique qui fait une majorité en France, eh bien, ça n'existe plus. Ils ne croient plus que des gens de catégorie populaire ne croient plus que les partis politiques, des notables, puissent s'intéresser à leur sort et donc une conjonction d'intérêts qui permet d'emporter le pouvoir. Ça, je crois que ça n'existe plus, que le fossé est trop profond, que les divergences sont trop profondes, les modes de vie aussi sont devenus trop divergents, y compris au niveau local. C'est le sens des résultats des municipales, où toute une partie de la population ne vote pas ou plus, il y a eu une très forte abstention, y compris à cause du Covid, et où, où des gens donc, n'arrivent plus à former cet arc sociologique, ou transsociologique plutôt, qui avant faisait les victoires de la gauche.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, Louis Osalter, Éric Scholl et Stéphane Vernet, de m'avoir accompagné ce soir pour ces grandes voix du vendredi.
Europe 1, Isabelle Millet.